Bonsoir chers auditeurs, bonsoir Damien, bonsoir à tous. Le mois dernier, nous étions restés avec nos amis, enfin nos amis qui vont le devenir, je pense, les Templiers, notre ami, encore moins d'ailleurs, le roi de France, Philippe le Bel, et puis ces fameux papes successifs qui mettent le bazar un peu dans toute la chrétienté. Donc, nos amis les Templiers ont bien des malheurs, ont bien des soucis, on ne sait toujours pas pourquoi, on va le savoir d'ailleurs dans ce numéro. Mais, chers auditeurs, il va se passer des choses pas jolies jolies. Ainsi donc, pour commencer ce deuxième numéro, pourquoi le nom même des Templiers ? C'est en l'an 1118, sans trop savoir d'ailleurs pourquoi, que naissent les pauvres chevaliers du Christ. C'est l'intitulé, les pauvres chevaliers du Christ. Ils ne sont que 9, en réalité, chevaliers, et comme leur nom l'indique, ils sont plutôt pauvres. Enfin, disons qu'ils ne sont pas de riches chevaliers, ils sont tout de même chevaliers, c'est-à-dire la première marche de la noblesse. Ces 9-là décident de consacrer leur vie à la Terre Sainte, non pour la gloire d'ailleurs, mais bien pour assurer l'accompagnement et la défense des pèlerins, journellement dépouillés sur la route qui mène à Jérusalem. Le roi de Jérusalem, lui, Baudouin II, les accueillit bien sûr avec joie et offre au premier chrétien, au premier chevalier, premier pauvre chevalier, sa propre résidence, assise sur l'esplanade dite du Temple de Salomon, la même où les musulmans avaient fait bâtir la mosquée Al-Aqsa. D'où leur nom, le temple, d'où leur nom de Templier. Alors ainsi, dès l'origine, l'ordre du Temple est constitué de chevaliers complètement désintéressés. Oui, vraiment désintéressés par les honneurs, la gloire, le gain, etc. Ils vivaient donc chichement, de dons, d'aumône, parfois même de rien du tout. Ils étaient vraiment ultra pauvres. Ce qui est extraordinaire est le nombre de dons, justement. Oui, oui, le nombre de dons qui va très vite affluer. On ne sait toujours d'ailleurs pas pourquoi. Parti à 9 pauvres seigneurs, 10 ans plus tard, en 1128, le pape ayant compris l'intérêt de leur action en Terre Sainte, institue le nouvel ordre, alors là, officiellement, en somme. Sa mission, chargée de veiller sur les pèlerins en Terre Sainte. Ah, ça, c'est une sacrée mission. Les Templiers vont faire le taf, évidemment, pendant quasiment 200 ans, enfin, à peu près 200 ans, sans quasiment, même on peut dire nullement, rien demander, mais alors rien du tout. Et ça aurait pu durer bien plus longtemps. Sauf que, voilà, les rivalités entre un roi et un pape vont leur être fatales. Mais quel roi ? Ah ! Mince, je l'ai dit en préambule. Ah, je me suis fait avoir. Eh bien, ce roi, oui, bien sûr, c'est Philippe le Bel. Mais quel pape ? Le pape, c'était, à l'époque, Clément V. Or, bien sûr, ce n'est pas son nom, c'est un nom de pape. Et il n'est pas né pape, non plus. Alors, pourquoi lui ? Pourquoi lui ? Eh bien, voici. Au milieu du XIIIe siècle, vers 1250, on va dire, pile poil, né, c'est chez le seigneur de Villandreau, à côté de chez nous, Ah ouais, côté de chez nous, pas loin de l'Aréole, etc., à côté de Langon, oui, un rejeton prénommé Bertrand. La famille de Goth. La famille de Goth est noble, mais pauvre. Sur une terre de Gascogne appartenant au roi d'Angleterre, lequel, en tant que duc d'Aquitaine, est tout de même vassal du roi de France. Ça, c'est un acte. Après quelques études de droit, université de Bologne et d'Orléans, il devient procureur du roi d'Angleterre, Édouard Ier à la curie romaine. En 1294, le pape Clément V l'envoie en Angleterre. Il va vite quand même, Cinq ans plus tard, Boniface VII le nomme archevêque de Bordeaux. Il va pas mal quand même en 5 ans. Bien, dès lors, Bertrand de Goth, puisqu'il s'agit de lui, est pris entre deux feux. D'un côté, le roi de France, et de l'autre, le pape, sans qu'il choisisse vraiment. C'est que l'affaire est d'importance, puisque Philippe le Bel accuse le pape, ni plus ni moins, devinez quoi, d'hérésie. Accuser le pape d'hérésie, mais aussi d'idolâtrie. L'Église ne peut en aucun cas être conduite par un parfait hérétique, et il lui faut un nouveau pape. Crucem Sancta. Amen. Boniface VIII, quant à lui, promulgue la bulle Unam Sanctum, qui affirme la plénitude protestatis, ce qu'on appelle la plénitude protestatis. Autrement dit, le pouvoir spirituel du pape qui dépasse et englobe le pouvoir temporel des souverains. En bref, il s'agit de savoir qui va commander, quoi. Il se chacaille, mais sur le dos des chrétiens, c'est toujours les mêmes. En réponse au roi, le pape menace le roi d'excommunication et libère les sujets du serment de fidélité. Je résume vite fait, le roi accuse le pape d'hérésie, ben voyons, et le pape lui dit « si tu m'accuses de ça, je t'excommunie, point barre ». C'est pas si simple. Grosse colère du souverain qui envoie une petite armée menacer le pape, lequel conduit jusqu'à Rome, où il mourra le 13 octobre 1303. Cet épisode est connu sous le nom de l'attentat d'Anagui. Attentat d'Anagui. Voilà. 10 jours plus tard, Nicolas Boscassini est élu et prend le nom de Benoît XI. De suite, il lève les sanctions canoniques contre Philippe le Bel, ça y est, il est peinard, et son règne sera court, mais alors très très court. Il meurt à peine quelques mois plus tard, le 7 juillet 1304. Toujours, pour l'instant, on n'a toujours pas parlé des Templiers. Pour l'instant, ils sont toujours peinards. Un nouveau pape sera élu, et c'est l'archevêque de Bordeaux qui est choisi. Tiens donc, notre ami de Goth, un bon copain finalement du roi de France. Il prend le nom de Clément V. Et de suite, s'attelle à deux chantiers qui lui tiennent à cœur. La croisade et la réunification des ordres. Ça, c'est un vaste chantier. Sauf que voilà, Templiers et Hospitaliers ne sont pas vraiment copains. Hein. Ils sont pas vraiment potes, quoi. Comment les mettre d'accord? Comment mettre d'accord des Templiers et des Hospitaliers alors qu'ils font partie d'un ordre quasiment identique? Simplement, on va les convoquer. Donc on les convoque. Jacques de Molay, le grand maître du Temple, arrive à Poitiers pour discuter du devenir des biens du Temple. On verra tout à l'heure pourquoi. Je croyais que Philippe le Bel était désintéressé, mais n'allez pas croire, chers auditeurs. Lui, ce qu'il veut, c'est des picaillons. Pas tant que ça, finalement. Bref, Jacques de Molay rencontre le pape, qui désire des explications au sujet de l'idole, sujet au nombre des chefs d'accusation, puisqu'avant tout, même pour un prétexte, les Templiers seraient accusés d'idolâtrie. Eux qui n'ont rien du tout. Hein. Très en vogue à cette époque, l'idolâtrie. Nous sommes le 9 juin. C'est des dates, les dates sont importantes. Nous sommes le 9 juin, et Jacques de Molay rencontre les visiteurs de France, et plus exactement leur chef, Hugues de Passin. Puis partent ensemble pour Paris. Le motif, demander au pape d'ouvrir une enquête et confesser au roi les irrégularités du temple. Alors là, c'est un peu étonnant quand même. Aurait-il la trouille? Peut-être. Mais une certitude, et celle-là, elle est actée. Le pape accède à leur requête et s'enclenche dès lors un mécanisme incontrôlable et surtout irréversible. Irréversible, oui, mais pour qui? Bien, nous l'allons voir. Ouais. « 1307, année fatidique. À quoi joue le pape et à quoi joue le temple ? Ça, c'est une des questions récurrentes dans tout ce thème. À quoi joue le pape et à quoi joue le temple ? Incompréhensible. Franchement, c'est absolument incompréhensible. Le pape Clément V accorde au chevalier Saint-Jean la souveraineté sur l'île de Rhodes, récemment conquise par les hospitaliers. On ne comprend plus grand-chose, là. Les Templiers, eux, ou plutôt leur horizon, si vous voulez, se délimitent ou se limitent désormais aux prisons du roi de France. Pour l'instant, ils sont à Paris et ils sont enfermés. Ils ne risquent pas de faire grand-chose. Il se produisit alors un fait incroyable que jamais personne n'entendit depuis les temps les plus reculés, mais alors les plus reculés. Je cite. Je m'explique. Le pape va commencer le procès, entre parenthèses, bidon des Templiers, juste destiné à réformer l'ordre. Rien de plus, rien de moins. Il n'a parce que ça, il faudra tout le temps le souligner. Il n'a aucune intention belliqueuse, ce pape. Les hospitaliers, je dirais même qu'il les aime, quelque part. Pourtant, il avise le roi de France de ce fait et lui précise que son état de santé est précaire et qu'il sera indisponible environ 4 mois. 3 mois. 3-4 mois. Alors là, jackpot pour Philippe le Bel, hein, croyez-moi. Hein, car lui, au contraire, veut éradiquer purement et simplement cet ordre. Je précise, pour récupérer leurs biens, évidemment. Il a donc... Ah, ben 2 mois et demi. Il a donc 2 mois et demi devant lui, s'il veut bien les utiliser. Il met en place un traquenard, disons général, hein, pour le vendredi, c'est-à-dire sur surtout le territoire. Voilà, général, surtout le territoire. Un traquenard pour le vendredi, très précisément, le vendredi 13 octobre 1307 à l'aube. Vendredi 13 octobre 1307 à l'aube. Partout, partout, dans le royaume de France, ici chez nous, les agents du roi ont reçu la même consigne. Une seule et même. Secret absolu. Secret absolu. Tenez-vous prêt à agir, soyez impitoyables. Hein, ça rigole pas quand même, il rigole pas à l'époque. Hein. Oui, le roi de France a été très clair à la mesure des coupables. Il a été très très clair. Sa haine est viscérale, elle est violente. Écoutez bien, arrêtez-les tous, par la torture si nécessaire, distinguez les innocents des coupables. Alors là, je pense qu'on ne peut pas être plus clair que ça. Les fonctionnaires rédigeront un inventaire de tous leurs biens et seront confiés à des notables de la région. Les vignes et les terres seront entretenues, les templiers prisonniers seront mis à l'isolement. Là, on ne peut pas, absolument pas être plus clair. À noter quand même une chose essentielle, étonnante, et j'ajouterai, étrange et surtout illégale. Les templiers sont un ordre religieux, on le dit depuis le début, c'est un ordre religieux. Et pourtant, ne sont pas détenus dans des prisons ecclésiastiques, comme le prévoit leur statut de religieux, évidemment. Mais dans une prison royale, c'est Philippe le Bel qui les a enfermés. Ceci est incompréhensible. Et maintenant, vite fait, je vais vous lire succinctement, quand même, les fameux 7 chefs d'accusation retenus par le roi contre les Templiers. Il y en avait très exactement 7. Alors, je vais faire simple parce que c'est un petit peu long. Hein. Donc, le premier. Ceux qui sont reçus demandent d'abord le pain et l'eau de l'ordre, puis le commandeur ou le maître qui le reçoit le conduit secrètement derrière l'autel. 2. Par 3 fois, cracher sur la croix. 3. Puis il fait dépouiller de sa robe celui qui le reçoit, le baise à l'extrémité de l'échiné, sous la ceinture, puis au nombril, puis sur la bouche. 4. Lui dit que si un frère de l'ordre veut coucher avec lui charnellement, qu'il lui faut l'endurer, parce qu'il le doit et qu'il est tenu de le souffrir. 5. Saint chacun par-dessus la chemise d'une cordelette que le frère doit toujours porter sur soi aussi longtemps qu'il vivra. 6. Et l'on entend dire que ces cordelettes ont été placées et mises autour du cou d'une idole qui a la forme d'une tête d'homme avec une grande barbe. 7. De plus, les prêtres de leur ordre ne consacrent pas le corps de notre Seigneur. Là-dessus, on fera une enquête spéciale touchant les prêtres de l'ordre. On le voit, 7 chefs d'accusation terribles. Pédérastie, idolâtrie, etc. Enfin, tout y passe. On parle de chevalier. Et maintenant, nous allons voir pourquoi tout cela ne tient pas. Matin du 13 octobre 1307. 138 personnes interrogées à Paris, 94 dans le reste du royaume. On voit le royaume de France, il avait pas l'air d'être bien grand, quand même. Ce qui est hallucinant est d'un cynisme particulier, puisqu'ils sont infiniment plus nombreux que ça, les Templiers, beaucoup plus nombreux que ça. Mais ceux-là, seuls ceux ayant avoué, je dis bien ayant avoué, sont comptabilisés, ce qui explique ces chiffres un petit peu risibles. 138 à Paris, 94, c'est la rigolade. D'ailleurs, sur 138 personnes, 134 confirment les accusations. Ils ont en moyenne 40 ans. Bien peu, d'ailleurs, sont chevaliers, la plupart seulement sergents ou frères de métier. Et les autres ? Les autres, beaucoup, avouons-le de suite, beaucoup se sont suicidés par pendaison, ou se sont jetés dans le fleuve, ou se sont poignardés. Bref, ils n'ont pas voulu endurer cela. Ça fait beaucoup de disparus, comme on appelait à l'époque, disparus volontaires quand même. N'oublions pas que le pape est toujours en disponibilité de la République, et on est aujourd'hui. En vérité, il sait que dalle, le pape. Il sait que dalle, point final, il n'est pas là. Là, nous sommes à Paris ou en France. Et quand il l'apprend, évidemment, dans son Italie lointaine, natale, quand il l'apprend, il pique une grave, mais alors grave colère, ce qui fait entre nous ni chaud ni froid à Philippe le Bel, rien du tout. Les Templiers sont donc accusés d'hérésie, essentiellement, on vient de lire les sept chefs d'accusation. Hérésie, je précise, littéralement, le choix. Hérésie, le choix. Bien, chacun a le choix, c'est clair. Sauf que voilà, chers auditeurs, et oui, à cette époque et depuis longtemps, l'hérésie fait partie des crimes de lèse-majesté. Lèse-majesté, on a un roi en France, et est donc réprimé par l'autorité civile. L'autorité civile, le roi, en somme. Eh oui. L'hérésie, pour Philippe le Bel, est donc un crime politico-religieux. Et il ne pouvait pas se permettre que les Templiers soient acquittés. Et encore moins s'acquitter par le pape. Alors là, sûrement pas. D'où son action éclair. Les arrestations et emprisonnements, les procès sous torture. Vous pensez bien que les biens du temple n'allaient pas lui échapper. Non, mais on rêve là. Non, sûrement pas. Il a fait tout ça pour l'argent. Rien d'autre. Et qui c'est le patron? C'est Philippe le Bel. Bien. Peu à peu, ce qui n'était que rumeur prend corps. Car avouons-le, à part le roi de France, qui exécrait les Templiers, vraiment, nous n'avons pas beaucoup d'autres témoignages. Mais même quasiment pas. Mais témoignages de quoi, au juste? Parce que qui a témoigné là-dedans? Eh bien, voici. Soi-disant que les Templiers, les nouveaux Templiers, les nouveaux, puisque les autres, ils sont déjà en place, les nouveaux, ceux qui arrivent dans l'ordre du Temple, pour être admis dans l'ordre, donc, devait obéir à un genre de rituel. Lequel? Toujours, soi-disant, il faut mettre des interrogations là-dessus, il devait renier le Christ et cracher sur la croix. Pour un ordre religieux, c'est quand même pas rien, surtout de la part d'un chevalier, quoi. Sauf qu'il n'y a pas de doute, aucun doute. Jusqu'à présent, personne, je dis bien, personne n'avait corroboré ce fameux rituel d'acceptation. Personne n'a jamais avoué ça. Alors, il se trouve que maintenant, nous avons la parole d'un membre de l'ordre, chevalier de haut lignage, qui vient confirmer tout ça. Ben voyons, là aussi, c'est un témoignage anonyme. Anonyme, eh oui. Qui est ce mystérieux Templier haut placé? Qui est-il? A-t-il seulement vraiment existé? Et quand aurait-il confirmé ces fameux crimes, puisque les Templiers sont en prison? Et puis lui, n'oublions pas qu'étant nouveau, il ne fait pas partie de l'ordre. Tout cela est un grand mystère. Alors, mystère, eh oui, mystère. Première hypothèse, qui coûterait la tête à des hommes quand même, parce qu'il y en a qui vont mourir là-dedans, parmi lesquels le mystérieux délateur serait un certain Hugues de Perroux. Hugues de Perrault, nommé par le grand maître Jacques de Molay, commandeur de Bure en Bourgogne, maître de France, il a plein de titres, hein, puis visiteur de France et d'Angleterre. En effet, du très haut lignage. Pourtant, celui-ci avoua, puis renonça à se défendre, revint sur ses propos et accepta la sentence. C'est incompréhensible tout ça, incompréhensible. Hein. La prison à vie, la sentence, c'était la prison à vie. C'est ça ou la mort. Hein. Si c'était un délateur, il n'était quand même pas bien cher payé. Hein. Il avoue, pour être en prison à vie, pas terrible. Hein. Il pourrait également s'agir de Geoffroy de Gonneville, qui ne suivit pas le grand maître dans sa défense des Templiers. Mais il préféra lui aussi garder le silence et accepta le verdict du pape en mars 1314. Emprisonnement à vie. Là aussi, c'est quand même curieux tout ça. Bref. C'est peut-être du n'importe quoi en vérité. Quelque chose qui nous a toujours échappé dans ce procès fait aux Templiers, qui nous concerne presque maintenant encore directement, reste le motif de tant de haine. Sans doute aussi, je pense, l'appât du gain. Car souvenons-nous que c'est un ordre religieux, certes, qui obéit aux trois vœux monastiques. C'est pour ça que je dis que ça nous intéresse encore aujourd'hui. Les vœux monastiques, les trois vœux principaux monastiques sont l'obéissance, la chasteté, la pauvreté. Je ne vois pas ce que viennent faire les Templiers là-dedans. Jusque-là, comment leur en vouloir? On ne peut pas leur en vouloir. Mais le Templier doit faire une promesse. Et c'est justement ce qui le distingue de notre ordre religieux. Je vous lis textuellement, factuellement, cette promesse telle que les archives nous l'ont rendue. Je cite. « Et encore, promettez-vous à Dieu et à Madame Sainte Marie, la Sainte Vierge, que tous les jours de votre vie, vous aiderez à conquérir la Terre Sainte de Jérusalem avec la force et le pouvoir que Dieu vous a donné. » Et le nouveau Templier doit dire « Oui, sire, s'il plaît à Dieu. » Voilà, archive à l'appui, ce qu'il devait dire. Et maintenant, nous allons voir les promesses qu'il devait faire. Eh bien oui, car le Templier devait faire aussi deux promesses finales. Un, celle de ne pas quitter le Temple pour notre ordre, ce qui est à peu près logique. Deux, celle de ne jamais se trouver en un lieu où un chrétien soit privé à tort de ses biens, avec un appui ou sans son conseil. Au moment où le postulant, hein, le nouvel arrivant, quoi, est reçu dans l'ordre, un prêtre fait une prière, brève mais intense. Un hymne à la vie des frères en communauté, en quelque sorte. Il s'agit du psaume 133, attribué au roi David, le mythique roi David, et appelé Cantique des degrés, ou bien Chant des montées, évidemment, indissolublement lié à la ville de Jérusalem. Jérusalem, Salam, la ville de Jésus, Jérusalem. La prière de l'Esprit Saint complète le tableau. Deus que corba fidelium. Et je vais vous la lire tout de suite. À la page 141, si je la retrouve, j'aurais dû le préparer, je me suis trompé. Voilà. Je ne veux pas qu'il y ait de blanc. Là, voilà. Voici la prière. Ô Dieu, qui avait instruit les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, voilà, chers auditeurs. Avouons-le encore, jusque-là, que pouvait-on reprocher à ces Templiers? On vient de lire leurs promesses, on vient de lire leurs prières, on vient de lire leurs vœux, leurs obligations. Franchement, alors là, pour moi, tout bascule et tout s'écroule. Je n'y comprends plus rien. Soi-disant, je dis bien soi-disant, la personne qui vient d'accueillir le postulant apporte une croix d'airain avec l'image de Jésus-Christ. Bon, tout cela, c'est logique. Mais il le somme de cracher sur la croix. Pourquoi un... C'est incompréhensible. Pourquoi un templier, un prêtre, un ordre religieux cracherait-il sur la croix? Eh bien, sachez, chers auditeurs, que ça le demeure encore. C'est toujours une énigme. On ne le sait toujours pas. Pourquoi aurait-il fait cela? À l'encontre de tous les vœux et de toutes les promesses? Incompréhensible. Sauf pour Philippe le Bel, semble-t-il. Mais pour d'autres raisons, bien plus pécuniaires apparemment. Nous savons maintenant quelques tenants et quelques aboutissants. Voyons les pourquoi de ce triste procès. Et tout d'abord, beaucoup d'ambiguïté. Le grand maître Jacques de Molay avait avoué son hérésie, sous la torture, évidemment, mais soi-disant à sa demande. « Ah oui, torturez-moi, je vais avouer. » Ben voyons. Se sentant soutenu par le pape, qui déteste le roi de France, entrevoyant un espoir de rédemption offert par le pape, évidemment, le grand maître frappe un grand coup. Il frappe un grand coup et, je vous le dis de suite, c'est un vrai, mais alors un terrible coup de théâtre. Vraiment, hein. Le 24, on n'est pas tout à fait sûr puisqu'il était torturé. Alors, est-ce qu'il avait sa tête? On ne sait pas. C'était le 24 ou le 27 septembre, à 2-3 jours près, 1307, hein, très précisément. Hein, devant la foule et les cardinaux, il se rétracte publiquement et invite ses confrères à en faire autant. Ben, on l'a torturé, mais après il dit non, finalement, ce que je dis, c'est pas vrai. Ouais, en gros, ouais. Ce qui change tout, évidemment. Il se rétracte devant la foule. Du coup, colère et gros coup de sang du roi, Philippe le Bel, toujours. Interdiction aux cardinaux d'assurer la garde directe des Templiers captifs. Alors, si on lit bien ce que je viens de dire, si on le comprend, on veut bien qu'ils soient prisonniers, mais on ne veut pas les garder, en somme. Hein. En gros, c'est ça. Le grand bazar, le grand bazar. Le grand maître est donc transféré au château royal de Corbeil, en Essonne, à environ une trentaine de kilomètres de Paris. Trois compagnons le suivent. Ça fait pas beaucoup, trois compagnons. Hein. Hugues de Perrault est transféré à Rochefort-en-Yvelines, environ à 50 km de Paris. Rimbaud de Coron, dans la tour de Montlhéry, à 30 km de Paris. Et d'autres à Villeneuve-le-Roi, au diocèse de Sens, au bois de Vincennes, au château de Trappes à Saint-Denis. J'en passe et des meilleurs. En fait, ils sont séparés, quoi. Et de nombreux templiers sont isolés. En gros, une bonne centaine. Après cette rétractation donc du grand maître, Noël 25 décembre 1307, trois mois après, 25 mars 1308, les docteurs de la Sorbonne renvoient le roi à ses chères études. Un pouvoir séculier, donc celui du souverain, ne peut se substituer à l'Église. Et le templier ou les templiers, prononçant le vœu institué par l'Église, doivent être tenus pour des religieux. Exemple. Ils dépendent donc exclusivement, je dis bien exclusivement, du pape, ce qu'ils ont toujours demandé d'ailleurs. Philippe le Bel, je peux vous dire, il est furax. Mais furax, il pète un câble sévère. Il se tourne alors vers le peuple et lance une vaste campagne diffamatoire, anonyme bien évidemment, envers les Templiers et envers le pape. Le pape himself, l'accusant en mots couverts d'hérésie, encore une fois, en tout cas de corruption, de népotisme, et puis d'autres petits mots fleuris, hein, que je ne peux pas dire à l'antenne, voilà. Parce qu'à l'époque, il ne rigolait pas sur les verbes. Hein. On s'en doute, le pape contre-attaque. Il convoque ses cardinaux sous forme de consistoire. Bien entendu, le résultat est sans appel, et tout le contraire des vœux du roi. Le pontife est seul juge. Point final, il n'y a pas à discuter. Malgré tout, Clément V et Philippe le Bel négocient. Parce que, bon, c'est la politique, ça, hein. Ils négocient, figurez-vous qu'ils trouvent un accord. le pape rencontrera un groupe de 5 grands dignitaires, Jacques de Molay, le visiteur de France et d'Angleterre, Hugues de Perrault, le commandeur d'Outre-mer, Rimbaud de Coron, le commandeur de Normandie, et Geoffroy de Charnay, le maître d'Aquitaine et du Poitou. Geoffroy de Gonneville sera également là. Il sera assisté de 6 cardinaux, 4 nommés par lui-même, c'est-à-dire le pape, 2 par le roi de France, ils seront 6. Il apparaît clairement, mais alors très clairement, que le pape désire causer aucun tort aux Templiers. Il leur donne plein d'... En fait, ces cardinaux, ce sont ni plus ni moins que des avocats. Donc, il ne veut aucun tort aux Templiers, mais bien au contraire. Et il devrait être... Et s'il devait être condamné, il le serait par lui et par personne d'autre. Je le redis à 30 secondes, le pape est seul juge. Point final. Ça, c'est son avis à lui, et pas forcément l'avis du roi. Le pape interroge donc à Poitiers en juin 1308, deux ou trois mois après, 72 templiers, 72, c'est pas mal quand même, sous l'œil et la plume attentif de notaires afin de garantir le caractère officiel des dépositions. Donc oui, mille fois oui, le pape suit à la lettre les dispositions de sa propre bulle, faciem misericordium. Très bien, jusque-là tout va bien. Alors, ceux qui confessent demandent et obtiennent, ceux qui confessent demandent et obtiennent le pardon de l'Église. Oui, tous confessent, tous, absolument tous. Cela est noté dans la bulle, la fameuse bulle qu'on connaît maintenant, historique, Vox in excelsio. In excelso, tout court d'ailleurs. Nous sommes le 27 juin 1308, à peine deux mois après le coup de la crise du pape. Sauf qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a un hic et de taille, mais or celui-là il est costaud. Le pape n'a interrogé personne, personnellement bien sûr, il laisse le travail à ses cardinaux. Ce qui est normal, c'est pas quand même le rôle du pape. Et ce qu'il lit et répète désormais est ceci, écoutez bien, est ceci. Certains, je le dis, seulement, ça c'est embêtant, avaient renié le Christ. C'est un aveu quand même. Mais tous ont fait une déposition. C'est le seulement qui pêche là-dedans. Sur les 72 interrogés, seuls 50 ont avoué réellement et ont été absous. Ceux-là, ils sont tranquilles. Soit en gros, à peu près 70% des accusés. Or, pas mal de dépositions se sont perdues. Parce qu'à l'époque, les archives, c'était roulé. Elles se sont perdues. Comment le pape pourrait-il juger ? L'original de l'enquête de Poitiers est conservé dans les archives secrètes apostoliques du Vatican. Il se compose de 3 rouleaux contenant en tout et pour tout 33 dépositions, ou plutôt 33 aveux, autant pour moi. À ces 33, le registre ajoute le résumé de 7 autres et les noms de 2 autres templiers. Mais les dépositions, là où leur déposition fut si brève, qu'on préférait les omettre. Bon, on a dit, ils servent à rien, on les oublie. 33 plus 7 plus 2, ça fait donc 42 templiers. Rien de plus. 42 templiers sur 72, c'est rien, ça. Le pape, lui, à Vienne, là-bas, sous les yeux, pour se faire... il a sous les yeux pour se faire une opinion et donner sa décision, à peine la moitié des dépositions des templiers. Comment voulez-vous juger la moitié des condamnés ? Même à notre époque, c'est quasiment impossible. Tout ça, c'est bien tordu, je sais, mais... Regardons les faits. 42 dépositions, 42 aveux, donc, pas de problème, 100% des Templiers, on est d'accord. Ils sont donc tous coupables à Poitiers. Et donc tous coupables, mais de quoi ? Et tout court. Ah, quitte des 30 aveux ou dépositions ayant disparu ? Ben, pourquoi pas ? Et dans tout ça, combien d'aveux sincères ? N'oubliez pas qu'avant, si vous avouez pas, vous étiez torturé, et puis une fois torturé, ben vous avouez, quoi. Et on revient à zéro, quoi. C'était toujours pareil. Aveux sincères, aveux réels, bien sûr, on ne sait pas. Pas mal devaient avoir menti, très probablement. Le courage, ce n'était pas forcément l'honneur des hommes. C'est dans l'âme humaine, et par rancœur envers l'homme. Peut-être même, voulait-il le quitter, cet ordre ? On s'est souvent posé la question. Et cela, quoi qu'on en dise, après tous ces aveux, cela ressemble à de la vengeance. En réalité, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Patria et filio. On a, il me reste une... Néanmoins, eh oui, néanmoins, le pape n'a pas le choix. Hein. On a essayé, il a essayé par tous les bouts. Je fais une digression au texte là. Très sincèrement, le pape n'a jamais eu l'intention de condamner les Templiers. Hein. Pour lui, c'était les seigneurs du Christ, hein, en quelque part. Hein. Pourtant, néanmoins, il n'a pas le choix. Quoi. La quarantaine de Templiers de Poitiers ayant déposé ou avoué, hein, ils ont déposé ou avoué comme on veut, seront tous absous, d'accord. Et donc, plus du tout interrogés par l'Église. Cela, on va les oublier. Ils seront jugés par un concile pontifical, même provincial sûrement. Donc, le pape se réserve quant à lui exclusivement le jugement des hauts dignitaires, puisque les autres, ils ont été absous, on n'en parle plus. Les hauts dignitaires, ceux-là, ils vont charger, par contre. Notons au passage que même absous, hein, on dit bien qu'ils sont absous par l'Église. Les Templiers restaient enfermés dans les prisons royales. Hein. Ça, c'est autre chose. Toutefois, ils pouvaient toujours porter le manteau et la croix, ainsi que recevoir les sacrements. Mais ils étaient en prison. Autre chose d'une importance capitale. Capitale. Les plus hauts dignitaires, le haut du pavé, hein, vraiment le haut du pavé, donc, ne seront pas compris dans les 40 absous. Cela niette. Eux, ils ne sont pas compris là-dedans. Ils n'ont fait ni déposition, ni aveu. Et pour cause, vous l'avez compris depuis le début, hein, et pour cause, ils ne sont jamais arrivés à Poitiers. Jamais ils y sont arrivés. Ils étaient partis pour être jugés. Mais ils n'ont jamais arrivé. On les arrêtera à Chinon, dans le château du roi. Le roi a dit, attends, cela, je me les réserve. Oui, le château du roi. Cause ? Alors, la cause, écoutez bien, ils sont malades et on ne peut les amener devant le pape. Oh, les pauvres, ils sont malades, on ne peut les amener devant le pape. Bon prétexte. Enfin, bon, pour le roi, puisqu'empêché de se confesser devant le seul, le supérieur hiérarchique, capable de prononcer en leur faveur. Ils ne peuvent pas aller voir le pape. Comment voulez-vous qu'ils se prononcent ? J'ai nommé le pape, bien sûr. Mais vous, chers auditeurs, cultivés, évidemment, bien plus que moi, vous avez surtout compris la vraie raison, n'est-ce pas ? Ben oui, Philippe le Bel s'est opposé à la rencontre des hauts dignitaires avec le pape, car, tout se passe à Poitiers. Et Poitiers n'est pas la France. Ah non, Poitiers, c'est pas la France. Du moins à cette époque. Maintenant, oui, mais c'est Poitevin. Non. À cette époque, Poitiers n'est pas la France. Ils sortent du royaume. Et tout, patatras pour Philippe le Bel, il ne les reverra jamais. Cela, c'est foutu. Là, terminé. Par contre, c'est malin, et c'est historique. Du coup, le pape Clément promulgue une bulle, encore une, alors les bulles, il en a fait un paquet, encore une, Miséricordiam, par laquelle il informe les évêques des commissions qui vont juger les Templiers, mais bien plus que ça, il leur annonce la convocation d'un concile œcuménique qui s'ouvrira le 1er décembre 1310 à Vienne, en France, Bulle qui décidera donc du sort du temple, de l'ordre, de ses membres et de leurs biens. Alors si on parle de biens, là, Philippe le Bel, ça commence à intéresser. Si ce n'est pas clair, alors là, je n'y comprends plus rien. Enfin, je dis bien, si les pseudo-accusés atteignent Vienne, ah, c'est là où tout le problème est, ce qui n'est pas fait est même loin de là. Puisqu'ils sont toujours à Chinon, on l'a dit, emprisonnés par le roi. Dans un château que le roi ne compte pas ouvrir au tout public. Bref, les 5 dignitaires, ce que je disais tout à l'heure, le haut du pavé, ce qui intéresse réellement à la fois le pape et à la fois le roi, sont tous à Chinon. Tous malades d'ailleurs, ils sont malades les pauvres, je le redis. Et personne ne peut empêcher les 3 cardinaux envoyés par le pape d'interroger les prévenus. Le pape, lui, leur a confié les plein pouvoir, enfin, plein pouvoir ecclésiastique. Et il est certain qu'ils n'ont jamais, mais alors je dis bien jamais, usé de torture ou de menace. Des cardinaux n'auraient jamais fait ça. Soi-disant, qu'ils auraient confessé. Alors là, on n'en est pas sûr. Ils auraient confessé quoi au juste ? Parce que là est la bonne question. Eh oui, chers auditeurs, là est la bonne question. On ne saura toujours pas ce qu'ils ont confessé, car ce numéro se termine sur le fameux procès des Templiers. Nous nous retrouverons donc le mois prochain avec la dernière partie. En fait, on va dire le verdict. Bon, le verdict, j'ai l'impression que vous avez déjà un bon bout dans la tête. Mais il y aura des petites surprises quand même, surtout pour Philippe le Bel, lui qui voulait tant de bien. Le pape, lui, c'était ses chrétiens. Mais lui aussi, il aura de sacrées surprises. Chers auditeurs, nous nous retrouverons le mois prochain, le vendredi, toujours pareil, avec Damien, merci à lui. Merci à Simonetta Serini pour son livre et l'apport qu'elle nous a donné, Lina, YouTube, etc. Et nous avions un petit, un petit stagiaire là, à Radio Entre-deux-Mers qui est avec nous. Damien l'a bien formé. Nous lui souhaitons une bonne continuation. Peut-être qu'on se verra le mois prochain, mais je crois que tu seras reparti dans les études. Écoutez, portez-vous bien. Merci à toi, merci à Damien, merci à vous, chers auditeurs. Et rendez-vous le mois prochain, le vendredi 3e du mois. Même lieu et même heure. Et bonsoir.